Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h20, mon invité, c'est Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Bonjour.
Bonjour.
Enrique, vous venez aujourd'hui avec un livre dont on va parler parce que je me suis demandé si c'était une sorte de mea culpa ou de... et si on consommait mieux. Fnac Darty, c'est quand même... On en parlait pendant la pub, on regarde le chiffre d'affaires, comment ça va au premier trimestre, on regarde l'année 2024, qui était 23, qui était compliqué, tout juste à l'équilibre. C'est ça qu'on cherche quand même, c'est du chiffre d'affaires. Et vous nous dites dans ce livre, non. Il faut consommer moins, il faut consommer mieux.
Il faut consommer mieux. Non, on regarde beaucoup plus que les chiffres d'affaires. On regarde aussi comme la manière comme on accompagne nos clients dans une consommation. Dans les fonds, ce qui intéresse, c'est est-ce que les clients utilisent des produits que nous on distribue de la meilleure forme. Pas simplement d'être un passeur. Notre bonheur n'est pas mesuré en volume, en mètres cubiques des produits vendus.
Non, mais le bonheur de vos actionnaires, notamment Daniel Kretinsky, c'est quand même que vous fassiez du chiffre et de la marge, non?
Je pense que la profitabilité du groupe DDMA se fera beaucoup sur notre capacité d'accompagner ces mouvements. Je pense que les constats aujourd'hui sont clairs. Ouais. Les clients, ils cherchent du sens, ils cherchent l'usage plus que la propriété. Et un groupe comme les nôtres, il doit être les fers de lance de cette transition. Donc, en plus, ça tombe bien parce que c'est pas pour rien que Darty, il y a 50 ans, a inventé les contrats de confiance, qui a créé son service après-vente, qui répare plus de 1 million des produits par an. Donc, on avait tout le nécessaire pour faire et prendre la référence de ces mouvements. C'est libre, ce qu'il veut, c'est rendre public nos engagements, et ce qu'on fait, et aussi engager les autres capitaines d'industrie à faire les mêmes mouvements et prendre les risques d'évoluer vers un modèle beaucoup plus vertueux.
On va parler de vos propositions, mais quand même, pour en finir avec cette question un peu métaphysique sur l'économie et l'entreprise, est-ce que le capitalisme peut se fondre dans un modèle plus responsable? Est-ce qu'on peut continuer, parce que c'est comme ça qu'on sait que l'on motive les individus, les entrepreneurs, les patrons, est-ce qu'on peut continuer à dégager des bénéfices pour investir, hein, pour se développer, tout en étant responsable? Est-ce que c'est compatible?
Je pense que ce qui n'est pas compatible, c'est avoir la croissance sans y être responsable aujourd'hui. Les clients, ils ne nous les permettront pas. Et les marchés non plus, parce que les marchés commencent à regarder aussi les entreprises qui sont en train de prendre les bons virages. Je pense qu'il faut réinventer un nouveau capitalisme plus respectueux. Je pense que le capitalisme, ça nous a apporté beaucoup des bonheurs dans les sens de confort de vie, accès à l'éducation, à la santé.
Du pouvoir d'achat, hein.
On ne peut pas dire que les dernières 40 ans de nos sociétés ont été des regrets, c'était plutôt des progrès. Il y a un seul contrainte, c'est qu'on a probablement abusé des ressources de la nature et aujourd'hui, c'est pas incompatible. C'est pas compatible, donc il faut trouver un modèle un peu plus équilibré. Ouais. Et j'y crois à l'économie des marchés, je n'y crois pas du tout à l'économie intervenue, l'économie des marchés, mais il doit trouver. Et en fait, la réalité des entreprises, et c'est ça qui les rend d'exercices passionnants mais complexes, c'est que nous, il faut trouver un modèle économique pour continuer à exister, parce que la première raison d'être en entreprise, c'est continuer à exister.
Ça veut dire qu'il faut trouver des manières de faire du chiffre d'affaires et aussi de la marge, sans forcément vendre un produit, mais en le réparant, en créant des abonnements, par exemple, ce que vous avez fait. Vous avez 1 million, je crois, d'abonnés à votre
service.
1 100
déjà.
Et l'objectif, c'est 2 millions. Hein.
2 millions.
Et c'est bien parce que c'est comme Apple, c'est des revenus récurrents, c'est des gens qui vous donnent entre 10 et 20 euros par mois. Et donc forcément, ça vous fait un socle. Hein.
Écoute, c'est des clients qui nous font confiance, c'est des clients qui nous payent à chaque mois pour être proches de notre abonnement, qui profitent largement, parce qu'on a réparé 2,5 millions des produits l'année dernière. On ne se rend pas compte, mais il y a à peine 5 ans, on était à peine 1,5 million. 1 million de réparations, d'actes de réparations par an, ça signifie beaucoup de personnes mobilisées partout en France, dans nos pays. Des emplois, des matières d'intelligence. Parler tous les jours beaucoup d'intelligence artificielle, ça va nous aider à être encore plus précis, plus pertinent, plus rapide à réparer. Et ça, on veut que ce soit un peu les socles de notre modèle économique du futur.
Alors, j'ai regardé le livre, je l'ai lu, c'est vachement intéressant. Jean Covici sort de ce corps, parce que vous, par exemple, vous dites qu'il faudrait un compte carbone individuel, un compte avec des points. Alors, j'aurais le droit d'acheter combien de fois des iPhone 9 avec le système Martinez?
J'aime bien, c'est une des suggestions qui a été la plus retenue, probablement s'interpelle plus. Moi, je pense que quand je regarde dans les dernières 10 ans, comment les entreprises se sont engagées sur une trajectoire de réduction de carbone. Et je pense que ça marche. Notre groupe, 50% avant 2030, on est déjà à la moitié. Je me demande, et les individuels, et nous, et les privés.
Oui, quel engagement on prend.
Quel engagement on peut prendre.
C'est vrai.
Pourquoi, si Christophe
vous voulez qu'on prenne maximum 4 fois l'avion dans la vie, dans notre vie. Vous savez, après, il est un peu revenu dessus, mais enfin, il disait 4 fois.
Oui.
Alors, combien de fois, avec Enrique Martinez, j'ai le droit d'acheter un iPhone?
Non, mais j'y crois à la liberté individuelle.
Dans une vie.
Ouais, je pense que les risques, on peut pas tomber dans les, ni le paternalisme, ni l'infantilisation des personnes. Ouais. Je pense qu'il faut les laisser la liberté. C'est notre société est basée sur la liberté.
Mais d'avoir un compteur et des points.
Un compteur, ça signifie que qui va polluer plus, il doit être plus responsable pour aller contribuer plus à l'effort. Ouais. Il y a 50 milliards par an à mettre dans l'économie pour la transformer vers une économie qui consomme moins de carbone. Donc, pourquoi tout le monde, il doit payer les mêmes? Ça, ouais. C'est une première réflexion. Et deux, il faut faire attention, et ça c'est un sujet plus social de notre démocratie, c'est qu'on ne peut pas laisser de côté les personnes qui ont moins des moyens pour accéder à cette nouvelle économie. Donc il faut vraiment, probablement, les rééquilibrages des revenus tels qu'aujourd'hui c'est fait par les impôts, il faut peut-être les trouver sur les efforts autour de la transition écologique.
Une deuxième mesure qui est classique, mais vous êtes courageux de le dire, vous dites qu'il faut instaurer une taxe carbone, comme Jean-Marc Daniel d'ailleurs, hein, sur ce plateau. Vous n'avez pas peur que les gilets jaunes protestent devant la FNAC si on impose une taxe carbone?
Non, je pense qu'il faut encourager les entreprises qui sont respectueuses partout pour permettre à celles qui ne le sont pas de se rendre aussi cet effort. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est mixte. Il est un peu protectionniste, mais pas complètement. Il y a des personnes qui profitent d'un système de marché unique, mais qui ne sont pas aussi au niveau que celles qui sont en Europe. On dit qu'il faut réindustrialiser l'Europe, mais c'est impossible avec les contraintes qu'on impose ici. Vous parlez tous les jours dans votre plateau. Ouais. C'est pas possible d'avoir des règles qui ne sont pas les mêmes qui s'appliquent à tout le monde. C'est un effort important. Mais je ne vois pas comment on pourrait y arriver si tout le monde n'est pas soumis aux mêmes règles des jeux. Et les libres, ils parlent un peu de ça. Et pas simplement pour faire plaisir à qui on est dans les marchés, c'est pour nous donner les moyens et nous encourager à faire ces mouvements qui, soyons honnêtes, c'est un mouvement qui porte ses risques. Donc il faut qu'au moins les règles de jeu soient les mêmes pour tout le monde.
C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un grand patron sur la macroéconomie aussi. On voit aujourd'hui le décalage qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe en termes de croissance. Ça se répercute évidemment aussi sur le niveau d'inflation. On a vu que l'inflation américaine, elle résiste parce que la machine, elle chauffe. Mmh. Comment vous expliquez la relative atonie du marché européen? On avait vu au chiffre l'an dernier, hein, avec un chiffre d'affaires quasi stable à 7,9 milliards d'euros. On verra dans quelques jours ce que sera votre premier trimestre. N'empêche qu'on sent bien que les consommateurs européens, français, sont plus attentifs. Comment vous l'expliquez? D'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre.
Ouais, il y a un sujet très, très impressionnant, c'est la confiance des consommateurs. L'année dernière, autour de l'été, il y a des statistiques qui sortaient, les taux de pessimisme des consommateurs européens, et particulièrement des Français, étaient plus hauts depuis 30 ans.
Ouais, parce qu'il y avait l'inflation.
Il y avait l'inflation, mais les États-Unis, ça avait l'inflation aussi. Ouais, mais la manière comme l'Europe, il est aujourd'hui angoissée sur les futurs et sur ses contraintes, il s'amène les personnes qui sont les moyens d'investir et de consommer à les faire un peu moins. Et ça fait toute la différence, vous savez, des consommateurs européens qui sont plutôt faire des économies, des consommateurs américains qui sont plus endettés que jamais. Mmh. Donc ça fait une énorme différence sur la machine de la croissance.
On peut changer cet état d'esprit en Europe sur la confiance?
Ça prend du temps. Je pense que ça va aller mieux. Déjà, l'inflation, la guerre dans nos portes, les coûts de l'énergie, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Moi, ma théorie, c'est qu'on est encore sous les effets du Covid, post-Covid, donc on n'est pas complètement sorti de cet effet psychologique. Les consommateurs, ils s'y tiennent après. Je pense qu'on sortira, différent. Il y a des habitudes qui vont rester. La réparation, acheter des produits de seconde main. Ce sont des choses qui, probablement, ils ont profité de ces mouvements où les clients, ils sont à la fois responsables, mais aussi, ils ont cherché des économies. Mmh. Et c'est tant mieux parce que ça mettra une économie un peu plus virtueuse dans la manière d'économie circulaire.
Une dernière question d'actualité, ça concerne l'entreprise qui n'a plus aucun rapport avec vous, elle n'est plus dans votre capital, vous ne demandez plus leur contrat d'assurance, c'est Indexia qui va mal, les salariés ne sont pas payés, il y a toujours des clients qui sont mécontents d'être prélevés de manière indue sur des contrats d'assurance auxquels ils ont renoncé. Ça fait partie aussi de ce que vous appelez le contrat de confiance. Est-ce que vous avez encore des clients qui, il y a très longtemps, quelques années, ont souscrit cette assurance auprès de vos réseaux et qui en sont encore victimes? Et est-ce que vous avez un message à passer avec par rapport à Indexia?
D'abord, j'ai vu qu'il y a ces collaborateurs qui se manifestent et je suis désolé pour eux. C'est toujours dur de voir ce type de choses arriver. Comme vous l'avez dit, nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas accord avec eux. Ils sont même sortis de notre capital il y a quelques mois. Nous avons été toujours très précis sur les produits qu'on a vendus à nos clients, chez l'assurance affinitaire, sur des montants très petits. On n'a jamais sorti de ces modèles. On n'y croit pas du tout. Et on est désolé. Et les clients qui ont eu, de manière abusive, ce type de contraintes, on les aide, on les a aidés. Et nous-mêmes, on a porté plainte en tribunal pour empêcher ce type d'action. Voilà, donc c'est très regrettable.
Merci beaucoup Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, d'être venu sur ce plateau. Vos T1, c'est votre premier trimestre dans 15 jours?
Oui.
Bon, écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt pour voir si ça frémit, mais pas trop, parce qu'il faut consommer de manière responsable.
Tout à fait.
Un patron qui ne veut pas qu'on consomme trop.